Alors, Bruno, il m'oblige de m'introduire à vous. Je suis Jean-Pierre, pas Albert. Et non, c'est juste pour changer le... un peu. Oui, donc pour la prédication de ce matin, nous avons un passage tiré de Marc, Évangile de Marc, chapitre 5. Évangile de Marc, chapitre 5, on va lire à partir du verset 25 jusqu'à 34. Marc 5, 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Donc, le même passage se trouve dans les deux autres évangiles, dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc aussi. Le récit, ça peut être un peu différent, mais nous savons que la parole de Dieu est la même. Il parle du même sujet, même si c'est écrit un peu différemment. Alors que je lisais ce passage des Écritures, je pensais à la fameuse... peinture de Michel-Ange, représentant Dieu, le Créateur, qui tendait la main pour toucher sa créature Adam. Je pense que tout le monde a vu cette peinture, qui se trouve même aujourd'hui à Rome. Bien qu'il soit acclamé même aujourd'hui comme l'un des plus grandes œuvres d'art, la plupart des gens qui voyaient cette peinture ne savait pas la vérité que Dieu tendait la main aux gens pour leur faire du bien même aujourd'hui. Et c'est juste une image qui représente Adam et Dieu, et qui représente l'homme et Dieu. Nous acceptons pas la représentation de Dieu dans aucune manière. Le premier verset du chapitre 8 de Luc nous dit que Jésus allait de ville, qui parle de même histoire. Il dit que Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et Matthieu nous dit aussi que Jésus parcourut toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Si quelqu'un demandait qu'est-ce que Jésus faisait pendant son ministère terrestre, c'est exactement ce qu'il faisait. En parcourant les évangiles, nous comprenons au ministère de Jésus qu'il allait de ville en ville et de village en village, par toute la Galilée, prêchant la bonne nouvelle, enseignant et guérissant toute maladie et toute infirmité durant sa vie terrestre. Cette guérison miraculeuse de Jésus qu'il a opéré se trouve dans les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Même si, si la plume peut donner une certaine couleur et un certain style unique pour les Écritures, nous trouvons toujours une harmonie entre les quatre évangiles, car ils sont l'œuvre du même auteur qui est l'Esprit Saint. Les différentes façons que chacun a choisi de réciter la vérité biblique peut nous aider seulement à comprendre le caractère du Seigneur Jésus-Christ encore davantage. La Bible est remplie de cas désespérés et sans issue. Les situations et les circonstances apparaissent dans la parole de Dieu et beaucoup d'entre elles nous paraissent sans issue. Cette section de l'évangile de Marc est remplie de plusieurs de ces situations impossibles. Il y a une tempête, puis un homme rempli de démons, puis une petite fille morte. Jésus entre dans chacune de ces situations inimaginables et prouve qu'il est plus que capable, en tant que Dieu souverain, qui contrôle toutes choses. Une vérité qui démontre de maintes fois dans les pages de la Bible, qui est la vérité que Dieu est plus que suffisant dans chacune de ces situations. Il n'y a pas de situation où des choses sont impossibles pour lui. Pas de situation désespérée avec le Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'être désespéré par rapport à votre situation actuelle. Vous n'avez pas besoin de trembler devant la tempête qui vous menace. Êtes-vous désespéré devant votre péché? Désespéré devant la maladie? Nous n'avons pas besoin d'être désespérés avec le Seigneur. Nous avons un Dieu qui est tout-puissant. Notre texte décrit encore une autre situation désespérée. Jésus est sur son chemin pour guérir la fille d'un homme au nom de Jaïrus. Les deux histoires dans ce passage sont liées. Nous trouvons dans les récits de Matthieu que Jésus était en train d'enseigner ses disciples quand Jaïrus s'introduit et interrompt Jésus pour la guérison de sa fille mourante. Et si nous allons voir le récit dans le livre de Matthieu, on voit que Jésus était en train d'enseigner des choses très importantes. Et pourtant, quand Jairus vient s'interrompre, quand il plaide avec le Seigneur pour venir guérir sa fille, le Seigneur, il laisse, il part avec Jairus. Et pendant que Jésus s'apprêtait à aller avec Jairus, il y a une voiture EP742ZW. Il faut déplacer cette voiture car elle dérange le voisin d'en face. C'est à la droite de l'église, en sortant de l'église. Voilà, nous allons continuer. Et donc, Jésus il part avec Jairus, qui demande Jésus de venir avec lui pour guérir sa fille qui est mourante. Et pendant que Jésus s'apprêtait à aller avec Jairus, nous voyons cette femme atteinte d'une longue maladie depuis 12 ans. Il y a un autre cas qui vient interrompre encore Jésus de faire ce qu'il était en train de faire. Permettez-moi de vous dire, mes chers amis, ce matin, que nous sommes tous en train de mourir. De notre naissance dans ce monde de péché, nous avons commencé à mourir. Oui, nous mourons tous, mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à mourir de la mort qui nous séparera éternellement de Dieu. Voici, Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix de Calvaire en notre faveur, et ressuscité le troisième jour pour tuer la mort une fois pour toutes. Sur le chemin, il est entouré par une grande foule de gens. Il le frôle et le bousculaire de tous côtés. Dans la foule ce jour-là, il y avait une pauvre, faible, timide, mourante femme qui attendait de toucher Jésus-Christ. Quand elle le toucha, elle a été instantanément est complètement et définitivement transformé. Sûrement, il y a des gens parmi nous aujourd'hui qui ont besoin de transformation de la vie. Vous avez besoin de quelqu'un pour changer radicalement la situation que vous affrontez dans votre vie. Ces transformations peuvent se produire. Une seule touche du Seigneur peut tout changer. Prenons quelques minutes pour considérer cette femme, cette pauvre femme et sa situation. Nous trouvons cette misérable femme dans le désespoir et l'angoisse. Donc, le verset 25 il parle, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Nous comprenons qu'elle souffrait d'un problème de sang. Cela signifie littéralement qu'elle avait une hémorragie ou de saignement dans son corps. Quelle que soit la cause de cette hémorragie, c'était une femme très malade. Un flot constant de sang lui aurait causé de souffrances incroyables. Prenons un moment pour examiner certains des domaines dans lesquels elle a dû souffrir. Premièrement, son angoisse physique. Une cause de la perte de sang constante, cette pauvre femme aurait été faible et anémique. Elle aurait été pâle et fatiguée, une fatigue chronique qui dure. Je pense que ceux qui vivent dans la métropole comme Paris, nous connaissons la fatigue chronique. C'est déjà sans avoir une maladie, c'est très dur à supporter la fatigue. Elle n'aurait pas eu d'énergie du tout. Le moindre effort l'aurait épuisée. L'homme se compose d'âme, esprit et du corps. Et tous ces trois sont liés intrinsèquement. Quand le corps est fatigué, cela affecte aussi l'âme et l'esprit. Sa souffrance a été non seulement physique, mais aussi l'a poussé dans une détresse psychologique. Et deuxièmement, nous voyons son angoisse qui est médicale, son angoisse médicale. Connaissez-vous une situation où des médecins qui n'arrivent pas à diagnostiquer votre maladie? Je pense que nous avons tous rencontré cette situation où le docteur ne sait pas qu'est-ce que vous avez. Il ne sait pas exactement. Il vous donne un traitement. Après quelque temps, il change un autre traitement. Et nous connaissons ces choses. Curieusement, nous rencontrons une telle situation même dans nos jours où il y a une avancée scientifique. Mais cette histoire remonte à plus de 2000 ans. Le texte nous dit aussi qu'elle avait essayé tous les remèdes de tous les médecins de son temps. Cette femme, elle a essayé tous les médecins de son temps et tous les traitements qu'elle pouvait avoir. On nous dit qu'elle a souffert sous leur garde, qui avait dispensé tout son bien pour la médecine, pour le médecin, sans qu'aucune ait pu la guérir. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'il possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt empirant. Les médecines traditionnelles ou modernes de son époque n'ont pas pu guérir cette femme. Parfois, quand nous souffrons d'une maladie, plusieurs types de médecines nous sont proposées. Allopathie, homéopathie, ou Ayurveda, ou méditation ou yoga, cette femme aurait souffert dans les mains de tous ces médecins qui prétendaient la cure pour sa maladie, mais en vain. Un autre aspect, c'est son angoisse sociale. Elle n'était certainement pas mariée parce que par un simple contact physique, elle aurait souillé son mari. Nous devrions imaginer de quelle époque elle vivait. Vous pouvez lire en détail sur ce sujet dans Lévitique 15. Nous allons pas lire maintenant, chapitre 15, versets 19 à 33. Si elle avait déjà été mariée, son mari aurait probablement divorcé. Elle ne pouvait pas travailler autour d'autrui en raison de dangers de défilement. Son état l'a laissée en marge de la société. Aux yeux de ceux qui l'entouraient, elle n'était pas meilleure qu'un lépreux. Un lépreux, quand quelqu'un le voit, il devrait couvrir sa face, il devrait crier souillure. Il devrait s'écarter de toute personne qui ne sont pas malades, qui sont homo. La Bible nous dit qu'elle avait été cette façon pendant 12 ans, et compte tenu de la durée de vie moyenne dans ses jours, il est sûr de supposer qu'elle a probablement été de cette façon depuis sa puberté. Elle a vécu sa vie en se déplaçant d'un rejet à l'autre. Elle était solitaire, isolée et désespérée. Cette pauvre femme devrait être considérée comme impure selon la loi de Moïse. Elle aurait été considérée comme impure si elle avait touché un homme. Par conséquent, elle ne pouvait pas se mêler à d'autres personnes. Tous ceux qui sont entrés en contact avec elle seraient considérés comme souillés. Elle ne pouvait pas adorer dans le cours des femmes du temple parce qu'elle était impure. Elle ne peut même pas aller à l'église. La Bible nous dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Les docteurs et le remède inutile ne l'ont pas aidée. Elle a été laissée sans argent, avec aucun mari ou enfant pour s'occuper d'elle. Oui, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Après des années de douleur, des médecins sans valeur, des remèdes inutiles et des rêves brisés, elle a atteint l'endroit où elle sait qu'elle vit sous une peine de mort. Elle ne va pas s'améliorer. Elle sait qu'elle va mourir de cette maladie. Sa vie est littéralement drainée de son corps peu à peu, jour après jour. Je me demande combien de personnes peuvent s'identifier à cette femme. Peut-être que vous n'avez pas le même genre de maladie, mais comme elle, vous êtes rempli de souffrance et de chagrin. Cette femme sans nom, souffrant, est l'image de deux types de personnes. Cette femme est l'image de chaque personne qui ne connaît pas Jésus-Christ comme sauveur. Les perdus sont souillés par une maladie de sang. Ils sont hérités de cette maladie d'Adam. C'est pourquoi, quand par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 5, 12. Beaucoup de gens, perdus, passent toute leur vie à chercher du sens et de l'aide pour leurs conditions. Mais au lieu de s'améliorer, ils ne font que s'empirer. Leur cœur devient plus difficile et ils deviennent plus profondément enracinés dans leur péché. Tous les efforts pour sortir de cette situation et de la religion n'améliorent pas leur condition. Elle est aussi une image de croyants qui souffrent sous un lourd fardeau. Beaucoup d'enfants de Dieu sont découragés. Vous avez tout essayé en vous, votre pouvoir pour aller mieux. Vous avez essayé tout ce que vous savez pour régler votre situation. Vous avez lu tous les livres, écouté tous les prédicateurs et obtenu des conseils des personnes. Mais vous n'êtes pas mieux. Votre vie est aussi abîmée que jamais. Notre texte nous raconte comment cette femme est venue à Jésus. Cette femme désespérée et brisée conçut un plan pour rencontrer le Seigneur. Quelque part, cette pauvre femme a entendu parler de Jésus. Peut-être qu'elle avait entendu comment il avait guéri un lépreux. Peut-être qu'elle avait entendu parler de cet homme sauvage que Jésus avait livré dans la légion des démons. Quelque part, cette femme a entendu qu'il y avait le pouvoir dans sa touche. Elle a entendu parler de Jésus. Elle savait qu'elle devait le toucher. Comme elle faisait son chemin à travers du foule, elle causait des souillures pour tout ce qu'elle touchait. Elle prenait un grand risque, oui, car si elle avait été reconnue, elle aurait été soumise à l'humiliation publique et au ridicule. Et une foule comme cela aurait pu la lapider à mort. Pour elle, c'était un risque qui valait la peine. Elle croyait que Jésus la guérirait. Avez-vous déjà été atteint à cet endroit dans votre vie? Êtes-vous venu à comprendre que Jésus est le seul espoir que vous avez? C'est la question de vie ou la mort. Si vous êtes dans cette église et perdu aujourd'hui, vous devez aller à Jésus. Il est la seule source de salut pour vous. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4:12. Si vous ne lui avez jamais fait confiance pour le salut, alors vous devez venir à lui. Jésus est votre seul espoir. Regardons son salut dans le verset 29, Marc 5:29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Nous voyons la puissance de salut. Quand elle était assez près de lui, elle a tendu une main tremblante et touche son vêtement. Matthieu et Luc nous donnent ce détail, qu'elle toucha le bord de vêtement de Jésus. En Marc, nous voyons qu'elle toucha ses vêtements. Qu'elle toucha le bord de vêtement de Jésus. Puis, en ce moment même, elle a reçu ce qu'aucun des médecins ou le remède coûteux et douloureux pourrait lui donner. Elle a été guérie. Instantanément, elle sentit le changement dans son corps. Elle savait qu'elle était une femme différente. Et cette guérison, ce salut, était personnel. Dès que cette femme le touche, Jésus sait ce qui s'est passé. Il savait avant même que cela arrive. Jésus le savait ce que ça va passer. Même quand il était dans le corps de l'homme, Jésus, il était quand même, Dieu. Il savait avant même que cela arrive. Il a voulu être touché par cette femme. Il savait qu'une force est sortie de lui. Jésus sait ce qui s'est passé. Il pose la question au verset 30. Qui a touché mes vêtements? Bien sûr, il avait des dizaines de personnes qui le touchaient et qui le cognaient, comme il était souligné par les disciples. je pense que le mot c'est le foule, le pressé. Apparemment, c'est le même mot qui est utilisé un peu avant en Luc, quand Jésus il parle de ces épines qui poussent avec le grain, il étouffe le bon semence. Et donc, le foule était tellement immense, aux dizaines de personnes ou quinzaines de personnes ont touché Jésus au même temps, au même moment. Mais son toucher était différent. Le toucher de cette femme était différent. C'était un contact accompagné par la foi. Beaucoup l'ont touché, mais un seul l'a touché avec le doigt de la foi. Vous vous souvenez, quand Jésus était crucifié, les soldats prirent ses vêtements, ils se déchiraient les vêtements de Jésus-Christ. Ils sont touchés avec leurs mains. Mais pourtant, il n'y a rien qui s'est passé. Je vais lire en Jean 19:23, mais je vais lire pour vous. Les soldats, donc, quand ils eurent crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique, or la tunique était sans couture, tissée tout d'une pièce depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais jetons-la au sort, à qui elle sera, afin que l'Écriture fût accomplie. Ils ont partagé entre eux mes vêtements, ils ont jeté le sort sur ma robe. Les soldats ont fait ces choses. Donc, les vêtements de Jésus entièrement étaient déchirés, ils ont fait n'importe quoi avec, c'était manipulé par des soldats romains, mais pourtant, il n'était pas touché. Mais cette femme, avec une simple touche de son doigt, avec la foi, qui touchait Jésus, elle était guérie. Cette femme a simplement touché le bord de son vêtement pour être guérie. Jésus aurait pu la laisser partir avec la guérison physique, mais il l'a appelée parce qu'il voulait lui donner plus que la guérison physique. Il voulait le déplacer au-delà de sa foi superstitieuse. Cette femme, elle a imaginé, peut-être, si je touche le bord de son vêtement, peut-être je serai guéri. Mais Jésus voulait affermir sa foi. Il voulait sauver son âme. Quand Jésus a parlé à cette femme, vous remarquerez qu'elle est tombée devant lui dans la crainte. C'est la raison pour laquelle elle était silencieuse derrière lui. Elle avait trop peur de venir devant Jésus. À cause de la nature de sa maladie, à cause de la situation sociale, elle n'a pas dû craindre cela. Jésus n'a pas voulu l'humilier. Il n'a pas voulu être loin de sa présence. Il n'a pas voulu lui prêcher un sermon sur l'impureté de la loi. Il était intéressé de l'aider avec son problème. Il était intéressé de sauver son âme. Elle s'inclina à ses pieds et lui avoua tout. Ce fut une reconnaissance publique. À l'extérieur de ce qui s'était passé dans son cœur, elle était différente. Elle n'avait pas honte d'en parler aux autres. Quand le cœur est transformé, nous n'aurons pas honte de parler de ceux qui nous ont sauvés. Elle était différente, elle n'avait pas honte d'en parler aux autres. Jésus a voulu changer son passé d'une petite foi superstitieuse à une plus grande, la foi de la conversion d'âme. Jésus était sur son chemin pour guérir la jeune fille d'un homme nommé Jairus. Versets 22 à 24. Cette petite fille est à la pointe de la mort. Comme Jésus fait son chemin à la maison de cet homme, il est entouré par la foule. Pourtant, malgré la gravité de sa mission, Jésus prend le temps pour s'arrêter pour cette femme. Et j'espère qu'on pourra imaginer la scène, comment c'était. Il y avait une foule énorme, et Jairus, il appelle Jésus pour venir chez lui, pour guérir sa fille. Et entre-temps, cette femme, elle touche le vêtement de Jésus. Et Jésus, il s'arrête sur son chemin. Et il avait sa mission d'aller mourir sur la croix, d'obéir à son Père céleste, mais il s'arrête pour lever la tête pour regarder en haut pour voir Zachée qui était perçu sur un arbre. Il a même pris un chemin qui est le détour. Il a fait un détour pour rencontrer Zachée. Et Jésus, il passe sur notre chemin. En ce moment, la foule pourrait aussi bien ne pas être là. L'activité de l'univers a été mise en attente alors que Jésus tourna toute son attention sur cette pauvre femme. Pour lui, la femme et ses besoins étaient plus importants que toute autre chose. C'est lui qui contrôle la vie et la mort. Il peut arrêter quelqu'un de mourir ou il peut faire cesser la vie de quelqu'un. Dieu le contrôle toutes choses. Elle était le seul foyer, le centre de son monde et son attention. Cette femme, chassée sans soin et indésirable, avait attrapé l'œil de Dieu parce qu'elle a exercé une foi simple et enfantine. Quelle bénédiction! Je crois que Dieu, qui contrôle le chemin de chaque atome dans chaque molécule de cet univers, a du temps pour vous quand vous l'appelez par la foi. Ne craignez pas qu'il ne se soucie pas de vous. Ne craignez pas qu'il ne vous reçoive pas. Tu réalises que cette femme n'aurait jamais pu le toucher s'il n'était pas devenu chair. Dieu a fait chair puisque cette femme, elle peut aller toucher Jésus. Jésus est devenu homme en premier lieu afin qu'il puisse mourir sur la croix. En Philippiens 2, 5 à 8, nous lisons ainsi, « Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Ça nous dépasse, n'est-ce pas, que Dieu il a pris la forme humaine pour que nous, pour qu'il devienne accessible à nous, pour qu'on puisse le toucher avec nos doigts. Ce que Jean, il écrit plus tard dans son épître, nous avons touché, nous avons manipulé avec notre doigt, avec nos mains. C'est merveilleux. Mais il est aussi devenu un homme pour qu'il puisse être touché par le sentiment de nos infirmités. En Hébreux 4, 15 à 16, nous lisons ainsi, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Cette femme, elle avait le souillure, elle était souillée. Mais Jésus, il est saint, il est pur. Mais quand cette femme, elle a touché Jésus, elle n'a pas pu transmettre sa maladie ni son souillure à Jésus-Christ. Il a été, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre du péché. Il ne peut pas être contaminé par le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il est aussi devenu chair pour que nous puissions le toucher. Aucun homme ne pouvait toucher la divinité. Jésus est devenu un homme afin qu'il puisse s'identifier avec nous et nous avec lui. Jésus est devenu un homme afin qu'il puisse identifier avec nous et nous avec lui. Il est devenu un homme pour que nous puissions le toucher. Si jamais vous venez à l'endroit où vous pouvez invoquer la foi, l'obtenir à lui et le toucher, vous obtiendrez l'aide dont vous avez besoin aussi. La guérison de cette femme était complète, elle était profonde, elle était permanente. Ce n'est pas une guérison qui soulage pendant quelque temps, après ça disparaît, après on devrait revisiter un autre médecin, nous allions revoir un autre médecin, mais c'était d'une manière permanente et il était une guérison profonde. Vous savez, dans cette foule, ce jour-là, il y avait des dizaines de personnes ayant des besoins physiques, spirituels et émotionnels. Mais une seule dame a eu cette guérison. Il y a plusieurs personnes qui peuvent toucher Jésus-Christ. Il était corps à corps avec Jésus-Christ ce jour-là. Mais une seule personne qui a été guérie. Des dizaines ont touché Jésus, mais une seule a été transformée. Mais pourquoi? Une seule personne regardait Jésus à travers les yeux de la foi. Une seule personne croyait que Jésus pouvait l'aider. Ça devait rendre triste le cœur de Christ. Quand il savait qu'il y avait autant de personnes, mais personne ne le croyait. Mais une seule femme qui croyait qu'elle pouvait le guérir. Une seule personne, quoi qu'elle ait à faire pour le toucher, mais elle a tout fait pour approcher de Jésus, pour le toucher. Elle a tout fait. Elle a bravé sa vie. Elle savait qu'est-ce que ça va lui coûter si elle était découverte. Seule une personne a été faite entièrement. Elle était entièrement guérie. Ne soyez pas de ces gens qui se contentent de marcher et suivre Jésus et de laisser inchanger. Mais si vous pensez que vous suivez Jésus-Christ, si vous pensez que vous marchez avec Jésus-Christ, quel effet vous avez dans votre vie? Quel effet nous avons dans notre vie? Est-ce que les choses sont changées dans notre vie? Ou nous marchons toujours avec nos fardeaux et nos souffrances? Mais Jésus transforme notre vie. Si vous avez besoin de l'aide, venez à lui. Il a le pouvoir de changer notre situation. Si vous avez besoin d'aide, obtenez-le et touchez-le par la foi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Amen. Seigneur, ces paroles touchent nos cœurs quand nous voyons combien tu as pris l'effort pour descendre ici-bas sur cette terre pour être accessible à nous. Seigneur, nous sommes infiniment petits et tu es infiniment grand. Nous ne pouvons pas comparer avec toi, nous sommes incomparables. Tu es incomparable, Seigneur. Tu es Dieu Tout-Puissant. Mais Seigneur, mais pourtant nous voyons que tu as tout laissé à côté pour descendre ici, pour prendre ce corps humain, pour vêtir ce corps humain, Seigneur, pour que tu deviennes accessible à nous, des misérables créatures que nous sommes. Seigneur, nous te remercions parce que tu es mort pour nos péchés. Et le mort est mort pour toujours. Et tu es ressuscité, tu es vaincu la mort. Et tu vis aujourd'hui. Tu es notre souverain sacrificateur qui vit auprès du Père. Tu es notre médiateur. Et Seigneur, tu veux que nous venions vers toi. Seigneur, pour être secouru, pour être debout devant le trône de la grâce, pour apporter nos fardeaux. Seigneur, pour approcher de toi tel que nous sommes. Seigneur, quelle grâce. Seigneur, tu nous as fait de grandes grâces, Seigneur, et car tu es miséricordieux. Seigneur, nous te remercions, Père, pour cette guérison que nous avons obtenue pour notre âme. Nous étions comme cette femme, souillée par notre péché, dès notre naissance. Seigneur, mais un jour tu as passé par nos chemins. Tu nous as laissé te découvrir. Seigneur, pour comprendre combien tu es un Dieu d'amour et de grâce. Nous te remercions, Père, pour ton Fils Jésus-Christ. Nous prions tout cela dans le Saint-Nom de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen.